Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat. Utilisez alors votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, donc causecommune.fm, et cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 28 mai 2019. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org et vous pouvez y trouver d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec liens et références utiles, détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire également des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques minutes, donc même dans quelques secondes, par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les collectivités et le logiciel libre avec les villes de Grenoble et de Paris. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam, bénévole à l'April. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, pour traduire ça en français, de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Bonjour Noémie.
Bonjour à tous.
Alors le sujet de la chronique du jour va porter donc sur le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
Effectivement, donc aujourd'hui nous fêtons les 1 an du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le RGPD. Bon, en vrai, ce n'est pas vraiment son anniversaire, car même si le RGPD est applicable depuis le 25 mai 2018, c'est un texte qui est connu, publié depuis le 27 avril 2016. Le RGPD, c'est un règlement de près de 90 pages, 99 articles, qui a pour objet de régir, d'appliquer, de définir les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Ce règlement, il abroge une directive du 24 octobre 1995 et il a pour objectif d'unifier le droit sur la protection des données dans l'ensemble de l'Union européenne. Au préalable, la directive de 1995, il faut le rappeler, nécessitait une transposition dans chaque État. Et donc, ça a pu mettre un petit peu de temps pour être transposé. On s'est rendu compte que les règles n'étaient pas applicables de la même manière. Donc, le règlement vise à uniformiser ces règles. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en France, il a fallu attendre 2004 pour que la directive de 1995 soit transposée, ce qui démontre bien que c'était plus facile d'imposer, dans le cadre d'un règlement, cette protection des données à caractère personnel. Le RGPD, il apporte des définitions sur ce qu'est une donnée à caractère personnel, ce qu'est un traitement de données à caractère personnel, qui sont les acteurs du traitement des données à caractère personnel entre responsable du traitement, sous-traitant. Donc je rappelle que le responsable du traitement, c'est celui qui détermine les moyens et les finalités du traitement. Le sous-traitant, c'est celui qui exécute sous les instructions du responsable du traitement un traitement. On a les personnes concernées, donc là c'est toutes les personnes dont les données à caractère personnel sont utilisées. Donc moi, lorsque mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone peut être utilisé, je suis ce qu'on appelle une personne concernée. Le règlement donc, va définir à la fois les règles applicables et puis il va encadrer aussi les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel vont intervenir. On a également dans ce règlement des règles spécifiques pour les mineurs. On a des règles qui viennent aussi déterminer les conditions des transferts de données vers les pays tiers. Et on a aussi tout un ensemble de règles sur les autorités qui sont là pour contrôler la manière dont on va traiter les données à caractère personnel. Donc on a une autorité de contrôle local qui, en France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On a également, au niveau européen, la création d'un comité européen de la protection des données qui a remplacé donc le groupe 29, qui était un groupe de travail qui fournissait des avis qui sont très importants pour comprendre en fait cette matière. Et aujourd'hui, on a des lignes directrices du comité européen de la protection des données qui viennent illustrer, expliquer les règles applicables dans cette matière. Ce qu'il faut noter également, c'est la question des sanctions qui a été abordée de manière très franche dans ce règlement, puisque aujourd'hui, la CNIL peut prononcer un certain nombre de sanctions, notamment que ça aille du rappel à l'ordre à l'injonction, à l'interdiction temporaire ou définitive de procéder à un traitement, suspendre des flux de données, ordonner à des responsables de traitement de satisfaire à des demandes d'exercice de droits de personnes concernées. Donc lorsque je contacte un organisme pour faire pour exercer mes droits, eh bien, la CNIL peut ordonner à cet organisme d'y répondre et prononcer des sanctions, des amendes administratives. Donc c'est là où on en a beaucoup entendu parler, puisque les amendes administratives, aujourd'hui, elles sont définies, elles sont précisées. Elles peuvent s'élever jusqu'à 10 millions d'euros pour une entreprise, soit, ou alors jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, lorsqu'il y a par exemple une violation à des obligations incombant aux responsables du traitement. Mais les sanctions peuvent être encore plus élevées, c'est-à-dire qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou dans le cas d'une entreprise jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, lorsque par exemple on va se retrouver dans le cas d'une violation à un principe de base d'un traitement, lorsqu'on va avoir une violation des droits dont bénéficient les personnes concernées, une violation par exemple aussi d'un transfert, des règles de transfert de données. Donc pour l'année 2019, je pense que la sanction qu'on peut retenir, c'est celle qui a été prononcée par la CNIL le 21 janvier 2019 à l'encontre de Google, qui a condamné donc à une sanction de 50 millions d'euros pour un manquement à la transparence, un manquement à l'information et une absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Donc en fait, la CNIL a considéré que le traitement pour la publicité qui avait été mis en œuvre, de personnalisation de la publicité, eh bien, n'avait pas de base légale. Il aurait dû nécessiter un consentement de la personne concernée. Ce qu'il faut noter également, c'est que puisqu'on arrive un peu à un premier bilan d'application du RGPD, c'est que pour la CNIL en 2019, elle a constaté qu'il y avait quand même une augmentation de 30% des plaintes en France. On arrive à 11 900 plaintes hein, sur cette année. Au niveau européen, c'est 144 376 plaintes qui ont été portées relativement à des plaintes sur la protection des données à caractère personnel. La CNIL a diffusé pour 2019 ses lignes thématiques sur lesquelles elle va vraiment concentrer ses moyens. On a tout d'abord la première ligne thématique, ça va être le respect des droits des personnes, puisqu'elle a constaté que sur 2018, il y avait à peu près 73 plaintes qui étaient reçues et qui portaient sur le non-respect de l'exercice d'un droit, donc une violation d'un droit d'une personne concernée. Donc là, elle veut s'assurer qu'en fait, les organismes eh bien, assurent une véritable application des droits dont disposent les personnes concernées, que ce soit des droits qui étaient existants avant le RGPD ou des nouveaux droits. Elle va également apporter une vigilance particulière au traitement des données des mineurs, puisqu'elle indique sur son site que c'est un public vulnérable et donc qui nécessite une protection particulière, notamment au regard des diverses problématiques liées aux réseaux sociaux ou également à la mise en œuvre de traitements biométriques dans les écoles. Donc voilà, c'est une deuxième ligne pour la CNIL. Et enfin, le troisième point, qui est un point assez intéressant, qui concerne la répartition des responsabilités entre le responsable du traitement et le sous-traitant. Puisqu'il est vrai qu'on a vraiment dans le RGPD une définition des acteurs en deux parties, c'est-à-dire soit on est responsable du traitement, soit on est sous-traitant. Alors il y a une troisième possibilité, c'est d'être responsable conjoint du traitement lorsqu'on traite des données à caractère personnel. Et on se rend compte en pratique que ce n'est pas toujours évident de délimiter le rôle de chacun. Et donc c'est pour ça que je pense que la CNIL va essayer d'apporter un peu des précisions pour encadrer les qualifications de chacun, et notamment dans un point de vue contractuel, parce que c'est souvent dans les contrats qu'on retrouve un peu des difficultés de qualification. Bon, évidemment, il n'y a pas que ces trois thématiques hein, qui sont abordées par la CNIL, puisqu'elle continue à poursuivre ses missions diverses et qu'elle est toujours saisie sur les réclamations, les signalements, elle mène les enquêtes qu'il faut. Dans le RGPD, pour en revenir un peu au RGPD, on a également constaté un renforcement des conditions du consentement. Il y a de nouveaux droits qui sont prévus pour les personnes concernées, notamment un droit à la portabilité. Et on note également de nouvelles règles applicables pour la violation des données, donc notamment un process de notification à la CNIL sous un délai assez court, hein, qui est 70 heures après la prise de connaissance d'une violation. On a également cette notion de délégué à la protection des données qui est apparue dans le RGPD, qui vient en renforcement de ce qu'on appelait avant le correspondant informatique et liberté, donc qui était préexistant au RGPD. Mais là, on a vraiment renforcer la responsabilité des organismes pour prévoir qu'au sein de cet organisme, on peut désigner une personne qui est vraiment chargée de vérifier la mise en conformité de l'organisme avec ce règlement et qui va vraiment avoir un rôle en totale indépendance vis-à-vis de son employeur pour prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que le RGPD est bien respecté et que la protection des données est effective. Donc, ce délégué à la protection des données, il faut savoir que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, la CNIL a noté 19 000 délégués à la protection des données qui ont été enregistrés sur son site, qui ont été désignés donc par plus de 53 000 organismes. Le RGPD a prévu également la réalisation d'études d'impact, donc qui sont nécessaires lorsqu'on veut mettre en œuvre un traitement qui peut avoir des conséquences, qui peut engendrer des risques pour les droits des personnes concernées. Donc le fait de réaliser vraiment un travail en interne pour vérifier si ce traitement il va pas entraîner trop de conséquences trop lourdes. Donc on veut vraiment s'assurer que le responsable du traitement qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel va prendre conscience et va réfléchir aux conséquences de ce traitement de données à caractère personnel. Donc c'est vrai qu'en France, on a ce RGPD, il est d'application immédiate. On entend aussi souvent parler de la loi informatique et liberté. Donc il faut savoir que ces deux, le règlement et la loi, eh bien, s'appliquent de manière conjointe. Hein. Il y a pas de, l'un n'est pas plus fort que l'autre en termes d'application. La loi informatique et liberté, qui date du 6 janvier 1978, elle a quand même été modifiée en juin 2018 pour justement intégrer en fait et se mettre en conformité elle-même avec le RGPD. On a une ordonnance du 12 décembre 2018 dont on attend l'entrée en vigueur qui devrait intervenir en juin et qui va s'appliquer en même temps que le nouveau décret d'application de la loi informatique et liberté. Donc c'est au niveau de l'ensemble de ces règles, il est clair que il faut que chaque personne qui traite des données à caractère personnel veille à ce que ces traitements soient conformes au RGPD et à la loi informatique et liberté qui normalement s'orientent dans le même sens, hein, évidemment. On doit donc en interne réfléchir à l'identification de ces traitements, faire ce qu'on appelle une cartographie. On doit vérifier que les mentions d'information des personnes concernées, elles sont bien présentes, vérifier qu'il y a bien des process dans les entreprises lorsqu'une personne concernée les contacte pour, par exemple, une demande de modification, pour une demande de suppression, et bien que ça se soit bien exécuté. On met à jour ces contrats, évidemment. On prépare le fameux registre des activités de traitement qui est prévu par le RGPD et qui permet de conserver une visibilité sur ces traitements. Donc ce registre, en fait, c'est un formulaire et qu'on complète en indiquant quel type de traitement on met en œuvre, quelles sont les personnes qui sont concernées, combien de temps on conserve les données à caractère personnel, quels sont les types de données à caractère personnel qui sont collectées. On peut faire également une feuille de route, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident dans les entreprises d'intégrer toutes ces règles. Donc faire une feuille de route, se conserver un peu des étapes pour ensuite transmettre l'information aussi à ses équipes opérationnelles, parce que c'est important que l'information soit diffusée. Et puis se former également, parce que c'est important, c'est une matière qui est aujourd'hui qui est incontournable dans une entreprise au même titre que la comptabilité, que les règles de facturation. Une entreprise doit faire le nécessaire pour s'assurer que les données sont conservées de manière conforme au RGPD, qu'elles sont traitées de manière conforme au RGPD et à la législation. Et donc, pour cela, il faut se former. Alors, ça peut être dans le cadre de formation interne pour l'entreprise, ou ça peut être, par exemple, nous, en tant que cabinet d'avocats, il nous arrive de donner des formations à nos clients quand on les a aidés dans le cadre de la mise en conformité. Mais ça peut être également des formations plus universitaires, par exemple. On a de plus en plus d'universités qui forment à ces matières-là, qui sont assez nouvelles, en fait. Je pense notamment, par exemple, au CNAM, hein, qui fait un certificat de délégué à la protection des données. Alors, j'en parle parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était très, très abouti comme formation. On a également aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller suivre 80 heures de cours, eh bien des MOOC, hein, qui sont ces petits cours en ligne accessibles dont on a entendu parler dans la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, hein, du 7 mai dernier. Donc le MOOC Fun MOOC notamment sur le RGPD est aujourd'hui disponible et il est, je crois, encore possible de s'y inscrire. Donc voilà, j'invite tout le monde à le suivre.
Eh bien, merci Noémie. Alors, beaucoup de termes ont été employés, délégué protection des données, responsable de traitement, registre des traitements. Évidemment, toutes les références sont sur le site de l'April, donc le site de la CNIL, des informations sur les RGPD, la formation CNAM dont tu as parlé, FunMook dont tu as parlé, et merci pour la référence croisée avec l'émission précédente sur les MOOC et Jean-Christophe Becquet. Donc, je vous encourage évidemment toutes les personnes à s'intéresser à ce sujet, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il est clair que certaines n'ont pas encore commencé. C'est un travail important, même au sein de l'April, on a fait un certain nombre d'actions qui sont nécessaires, parce que c'est très important là. Le traitement des données à caractère personnel. Donc, c'était la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet d'Une. Je te remercie, Noémie. On se voit le mois prochain et bonne journée.
Merci également.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Acrylique par Fog Leck et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Acrylique par Fog Leck, musique disponible sous licence Creative Commons Attribution, donc vous pouvez utiliser librement. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Passons maintenant au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les collectivités et le logiciel libre avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, donc, Laurence Comparin, qui est adjointe données publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble. Donc, normalement, Laurence est avec nous par téléphone. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Parfait. Notre deuxième invité, Pierre Lévy, de la Direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, et notamment en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme Lutèce dont on va parler dans le cours de l'émission. Bonjour Pierre. Alors déjà, première petite question rapide, une petite présentation individuelle de votre parcours. On va commencer par Laurence.
Donc je suis effectivement adjointe au maire de Grenoble, comme tu l'as dit Fred, en charge de beaucoup de choses, et en particulier l'utilisation et la diffusion des logiciels libres au sein de notre collectivité. Donc je suis élue depuis 2014 et par ailleurs, à titre professionnel, je travaille à l'université où je travaille sur les systèmes d'information et les référentiels d'identité.
Merci Laurent. Et toi Pierre ?
Alors moi j'ai un parcours, en fait j'ai une formation d'ingénieur de génie civil et je travaille à la mairie de Paris depuis un certain temps et je m'occupe depuis à peu près une vingtaine d'années du développement des applications spécifiques de la mairie de Paris, tout ce qui est développement spécifique.
D'accord. Alors c'est une première émission sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous aurons l'occasion d'en refaire, évidemment, pour entrer dans le détail de certains points et puis avec d'autres collectivités. Là, l'idée, c'était de réunir deux collectivités pour un petit peu aborder les raisons déjà pour lesquelles ces deux collectivités, donc la ville de Paris et la ville de Grenoble, ont choisi d'investir et d'utiliser des logiciels libres, et un retour d'expérience sur des sujets en interne avec des axes un petit peu variés. Mais vraiment, c'est une première émission, donc ne vous inquiétez pas, on en refera d'autres. J'aurais envie de dire que la première question, quelque part, pourquoi une collectivité, alors en 2019 ou même avant, choisit soit d'utiliser partiellement des logiciels libres, soit de donner la priorité aux logiciels libres, voire d'investir dans le développement de logiciels libres. Alors Laurence Compara pour la ville de Grenoble.
Alors il y a des raisons éminemment politiques forcément. Hein. Le logiciel libre, c'est un logiciel sur lequel on a la main. On peut modifier le code, on peut aller voir comment il fonctionne. Il n'est pas fourni clé en main dans une boîte noire par une grande entreprise qui, en général, est à l'autre bout de la planète. Donc, c'est quelque chose qui est vertueux en termes d'ouverture, de partage de la connaissance. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez participer à élaborer collectivement cet outil-là. Donc, il y a une philosophie derrière qui nous parle, nous, politiquement, au sein de notre équipe municipale. Il y a aussi le fait que quand on investit de l'argent public dans notre informatique, on trouve ça plus intéressant de faire appel à des boîtes de formation, à des développeurs locaux, à des gens qui vont nous accompagner, qui sont sur notre territoire, qui vont embaucher des gens localement, qui vont faire vivre l'économie locale, plutôt que d'envoyer l'argent de l'impôt de nos concitoyennes et concitoyens à l'autre bout du monde, chez des entreprises qui plus est, en général, élever l'évasion fiscale au rang des beaux-arts. Donc, il y a cette dimension-là, et il y a une dimension d'exemplarité aussi dans une collectivité publique. Hein. On équipe des écoles, par exemple, dans les écoles, en tant que municipalité. Donc, quel monde numérique est-ce qu'on prépare pour les futurs citoyens, citoyennes de demain? Avec quel monde numérique on les met en contact à l'école? C'est aussi important pour nous, en tant qu'acteurs politiques, de nous poser ces questions-là et d'avoir une réponse politique. Alors, une réponse qui va rester opérationnelle. Il faut évidemment que les gens continuent à puissent travailler. Mais voilà, il y a à la base une volonté politique.
D'accord, merci Laurence. Alors, côté mairie de Paris ou côté DSI, donc Direction des systèmes d'information de la mairie de Paris, quelles sont les raisons de cet investissement dont on va parler juste après? Pierre Lévy, de la mairie de Paris.
Alors, cet investissement, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la ville de Paris a été assez pionnière dans le domaine, puisque dès 2001, avec l'arrivée de Bertrand Delanoë, en fait, il y a eu une volonté des politiques de mettre en place du logiciel libre à la mairie. Et ça a été là un peu la naissance du projet Lutès, où l'équipe municipale, tous les adjoints de cabinet avec leurs conseillers techniques sont venus voir la DSI pour demander une plateforme pour les mairies d'arrondissement, une plateforme qui devait être entièrement basée sur des logiciels libres. Donc la volonté politique était très forte. En fait, en 2000, si on se replace un petit peu à l'époque, 2001, c'est la publication du rapport Carsenac qui faisait sur l'administration électronique et qui indiquait que le logiciel libre était vraiment offrait des potentialités très vertueuses pour l'administration. Et c'est par exemple aussi la création de l'Adulacte à l'époque, qui est l'association des développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales.
Et dans l'administration.
Et dans l'administration, voilà, j'ai le A de Adulacte. Et il y a eu un gros engouement pour le logiciel libre à l'époque. Cette volonté était très politique. Et ça rejoint un autre phénomène que Richard Stallman appelle l'open source, qui distingue du logiciel libre, qui est un petit peu le côté technique du logiciel libre, c'est-à-dire le partage du code et comme moyen technique de développer. Donc ça, moi, du point de vue technique, je dirais que moi, j'étais plus passé du côté de l'open source et les élus plus du côté logiciel libre. Et en fait, c'est un peu cette alchimie entre la partie technique et la volonté politique qui permet de créer donc des projets tels que Lutès.
D'accord, on va évidemment expliquer après ce qu'est Lutès, on va revenir aussi sur le projet des écoles à Grenoble. Alors, je préciserai juste que ce n'est pas Richard Stallman qui appelle ça open source, c'est l'open source initiative en 1998 qui a créé ce terme-là. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu dis et de ce que dit aussi Laurence, c'est une rencontre à la fois entre une volonté politique, une décision politique, donc qui est plutôt, on va dire, le logiciel libre en tant qu'enjeu de société, et une rencontre avec des techniciens ou des techniciennes qui sont plus effectivement dans l'aspect pratique qu'on pourrait mettre dans le terme de open source, peut-être ce qu'on peut dire. Et dans cette introduction, j'ai retenu quand même quelques termes. Donc, quelque part, c'est donc le développement d'un tissu économique et social local. C'est aussi des questions de mutualisation, de souveraineté, on entend, de créer aussi, de participer à la formation de citoyens et citoyennes dans un monde numérique qui ne sera pas uniquement piloté par les GAFAM. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Laurence, quand tu parlais donc des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et les autres géants du net. C'est vraiment ce côté social et politique pour l'avenir.
Complètement. Vraiment, l'idée, en tant que collectivité locale, on a aussi un enjeu à être maître de ce qui se passe chez nous. Avec nos outils informatiques, on va gérer des données personnelles pour faire le lien avec la chronique qui a précédé. On va accompagner le service public, fournir du service public. On doit avoir la main là-dessus. On a une responsabilité, il y a un enjeu à avoir cette souveraineté numérique. Et le logiciel libre, l'open source sur la porte d'entrée qu'on va choisir, est clairement un moyen au service de cette souveraineté.
D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. J'ai l'impression que dans vos deux cas, le projet est soutenu politiquement et à la fois aussi techniquement. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre un projet politique et une DSI, ce qui n'est pas DSI, Direction des Systèmes d'Information, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, ça peut être une volonté politique qui n'est pas suivie par la partie technique. Et puis, des fois, c'est plutôt des gens de la technique qui voudraient faire du logiciel libre et que le politique ne suit pas. Mais si je comprends bien dans vos propos, en tout cas, Laurence, notamment... Alors, Grenoble, c'est plus court. C'est plus récent. C'est 2014, si je me souviens bien. C'est la nouvelle mandature municipale. Il y avait un projet politique et qui, finalement, est piloté à ce niveau-là politique avec l'aide de la direction informatique ou en tout cas des services informatiques. C'est un mixte des deux, en fait.
On a même renforcé l'équipe informatique avec des compétences en logiciel libre, parce qu'effectivement, c'était aussi une nouveauté dans la commande politique. Donc, il a fallu renforcer la compétence des équipes. On a recruté un technicien spécialisé pour nous aider en particulier sur l'informatique dans les écoles. Nos agences se sont formées. On a recruté une chef de projet pour la bascule vers la suite bureautique LibreOffice. Donc, qui permet d'avoir un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de diaporama, enfin, des outils assez classiques qu'on utilise un peu tous et toutes au quotidien quand on fait de l'informatique. Voilà, il y a des outils libres, notamment LibreOffice qui est le plus connu d'entre eux, et on est en train d'accompagner nos agentes et nos agents sur ce nouvel outil, et donc on a recruté spécifiquement une personne pour ça.
D'accord, on va en parler juste après. Pierre, donc le projet Luitèze, dont on va parler aussi, on va présenter évidemment, mais là je reviens sur l'historique. Tu parlais donc des années 2000, le maire à l'époque de Paris, c'était Bertrand Delanoë. Aujourd'hui, la maire de Paris, c'est Anne Hidalgo. Ce soutien politique, j'ai l'impression, en tout cas, ou plutôt c'est une question, il existe toujours, voire il s'est même renforcé. Est-ce qu'il y a encore ce soutien important, finalement, près de 18 ou 19 ans, presque 20 ans plus tard, en fait?
Oui, tout à fait. Il a pris différentes formes. Par exemple, lors de la deuxième mandature de Delanoë, on a eu Jean-Louis Missica qui a créé l'Open World Forum, qui aujourd'hui est devenu le Paris Open Source Summit, où la ville de Paris est toujours très active dans le sponsoring de cet événement. Et avec la mandature d'Anne Hidalgo, on a eu la chance d'avoir comme élu Emmanuel Grégoire, qui est vraiment très au fait de ces sujets et qui porte beaucoup le sujet. D'ailleurs, il avait fait un discours aux 20 ans de l'April, donc c'est quelqu'un qui nous a donné la chance, qui a fait adhérer la ville de Paris à l'April d'ailleurs, ainsi qu'à OW2 qui est une fondation européenne sur de logiciels open source et dans laquelle voilà l'UTES a pris toute sa part. Donc on a effectivement la chance d'avoir un très bon support politique sur ce sujet-là, mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que le support il doit être à tous les niveaux de la chaîne, c'est-à-dire qu'il doit être à la fois au niveau politique, au niveau du secrétariat général, au niveau de la direction et au niveau des équipes techniques. Je dirais qu'il y a presque quatre maillons et je dois dire qu'aujourd'hui on a la chance depuis 2-3 ans d'avoir un petit peu tous ces maillons qui sont alignés et qui nous permettent donc de bien développer les services numériques de la ville.
Alors, comme on dit, les planètes sont alignées. J'en profite pour préciser que Grenoble est aussi membre de l'April, d'ailleurs depuis la même période, à peu près 2015 de mémoire, ce qui me fait penser que tout à l'heure, j'aurais peut-être une petite question justement sur l'implication ou l'investissement des collectivités dans des structures telles que l'April ou, comme tu l'as dit, des groupes de développement comme OW2 ou même la DULAC. Donc au-delà de simplement les actions en local, c'est important de cette participation dans l'environnement du logiciel libre. Est-ce que Laurence, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie introduction avant qu'on passe un petit peu aux exemples concrets qu'on parle notamment, donc je vais prévenir les sujets qu'on va évoquer pour que les personnes qui nous écoutent, on va évoquer migration de LibreOffice à Grenoble, la partie école aussi à Grenoble, et évidemment on va aussi rentrer dans le détail sur l'UTES à Paris. Mais sur cette première partie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Laurence ?
Simplement dire que la ville de Grenoble a rejoint récemment la coalition des villes pour les droits numériques, Cities for Digital Rights et French in the Text, qui est un regroupement de villes à l'international. On y retrouve Amsterdam, Barcelone, New York, et qui souhaite réfléchir justement aux responsabilités qu'ont les villes dans ce monde numérique, avec l'enjeu que les droits humains soient respectés dans le monde numérique comme ils devraient être également dans le monde réel, avec tous les guillemets de rigueur, hein, le monde numérique et tout ce qu'il y a de plus réel. Et donc voilà, c'est aussi cette même idée de philosophie où le numérique, il est dans nos vies et les valeurs qu'on porte d'une manière générale, on doit les porter aussi dans le numérique.
Merci pour cette précision. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie introductive ?
Non.
Ok, bah très bien. Non, mais on va passer à la suite. Donc on a cité donc Laurence Compara a parlé de LibreOffice, donc la migration de LibreOffice. Au niveau donc de la ville de Grenoble, elle a parlé aussi des écoles. Pierre a parlé donc de l'UTES. Bon, on va commencer un petit peu donc à détailler ces projets en termes de retour d'expérience pour aussi encourager d'autres collectivités. Parce que je rappelle que l'an prochain, en 2020, il y a les élections municipales. Je parle aux gens du logiciel libre et autres. C'est l'occasion aussi d'encourager des listes candidates à mettre dans leur programme le logiciel libre, comme c'était le cas dans la ville de Grenoble, dans la liste sur laquelle faisait partie Laurence Compara. Donc l'idée, c'est aussi de leur donner des idées d'actions, parce qu'il y a des actions qui sont plus ou moins simples et d'autres qui peuvent prendre plus de temps. Donc on va commencer peut-être par LibreOffice, parce que c'est un logiciel que sans doute beaucoup de gens utilisent sans savoir forcément que c'est un logiciel libre. Donc Laurence Compara, la ville de Grenoble a décidé de, si j'avais bien suivi, donc la migration des postes de travail des personnes qui travaillaient dans la collectivité à LibreOffice, donc la suite bureautique libre.
Tout à fait. Donc c'est un projet qui a démarré il y a un an à peu près maintenant. On s'est donné 3 ans pour le mener au bout. Donc ce sont des projets de longue haleine. Évidemment, c'est proportionnel à la taille de la collectivité, hein. Donc ça concerne la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale. Il y a à peu près 3500 agents et agentes dans ces deux collectivités. Alors tout le monde ne travaille pas au quotidien sur un ordinateur, hein. Les agents de la propriété urbaine, les espaces verts de la cantine, etc. Ne sont pas derrière un bureau comme d'autres agents au marché public ou l'accueil de l'état civil. Donc ça ne concerne pas forcément toutes ces personnes-là au quotidien, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc c'est un projet politique, une fois qu'on a posé une volonté politique, il faut, l'intendance suivra, hein, comme on dit, il faut donner les moyens à l'intendance de suivre. Donc il faut effectivement que la direction générale, hein, comme c'est le cas à Paris, appuie la démarche. Et puis, j'ai dit, nous avons recruté une chef de projet qui accompagne les services dans ce changement. L'objectif, c'est d'une part de s'assurer que cette bascule, elle est possible, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir continuer à travailler en changeant d'outil. Est-ce que leur logiciel de comptabilité va marcher avec? Est-ce que le logiciel RH va marcher avec? Est-ce que les modèles de documents qui s'étaient faits vont marcher avec? On a cette responsabilité-là que l'institution continue à fonctionner, on rend du service public hein, derrière, donc il faut que ça suive. Et puis, c'est aussi une opportunité, je dirais aussi et surtout, une opportunité de transformer l'institution. L'idée, c'est pas je prends ce que je faisais avec ma suite bureautique dont je tairais le nom, et paf, je transforme ça sous du LibreOffice et je continue tout pareil qu'avant. Bon, j'en profite pour réinterroger mon organisation. Les modèles de documents que j'utilise, est-ce qu'ils sont toujours à jour? Je vais en profiter pour les transformer en écriture inclusive. Je vais peut-être me rendre compte qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu au quotidien. Ils ont des bouts de tableur dans un coin, des bouts de fichiers dans un autre. Ils ont du mal à partager tout ça entre les personnes qui doivent travailler dessus. Quand je dis qu'ils bricolent, c'est pas du tout une critique, hein. Ils arrivent à travailler, mais on va se rendre compte que les conditions de travail sont peut-être pas optimales et que c'est peut-être pas de mettre à jour la suite bureautique qu'il faut faire, mais se poser la question de leur fournir un logiciel métier pour leur faciliter la vie. Donc c'est vraiment un projet de transformation. Et donc ça nécessite beaucoup d'accompagnement et beaucoup de temps de travail à comprendre le métier des services, ce qu'ils font au quotidien, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça marche super bien et il faut surtout pas y toucher, etc., etc. Donc c'est pas du tout un projet technique. Il y a une dimension technique, évidemment, mais c'est un projet organisationnel.
C'est très intéressant parce que c'est un point essentiel quand on parle de migration. Souvent, on pense que c'est une migration technique, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est comme tu le dis, c'est l'organisationnel. Je précise, quand tu parles de la chef de projet LibreOffice, que le 18 juin 2019, on fait une émission justement sur LibreOffice et qu'on va la convier à intervenir pour faire un petit point. Et avec d'autres personnes de l'association qui s'appelle La Mouette, qui fait la promotion et le développement de LibreOffice en France, donc le 18 juin. Donc voilà, et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet global. Quand tu dis effectivement qu'en plus, il y a une réflexion sur les documents qui existent, sur les procédures, etc. Voilà, c'est un projet global. Tu as en plus un investissement parce qu'il y a une chef de projet qui a été embauchée. Donc déjà, c'est un premier conseil, ou en tout cas quelque chose qui est essentiel pour les collectivités ou même des structures type entreprise qui voudraient migrer vers un outil tel que LibreOffice, c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain et que c'est peut-être l'humain d'ailleurs qui est le plus important là-dedans, hein, sans aucun doute. Au-delà
c'est la
du
formation
logiciel.
Des agentes et des agents, voilà. C'est fondamental.
Et est-ce qu'il y a eu des résistances justement de la part du personnel en se disant, parce que souvent il y a quelques outils un petit peu dans l'informatique que les gens n'aiment pas trop forcément changer, qui est l'outil un peu l'outil bureautique parce que c'est un outil de production très important. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu une résistance ou est-ce que ça a été finalement vu comme quelque chose de très positif?
Alors, on en est vraiment dans cette phase où notre chef de projet fait la tournée des popotes, prend beaucoup de temps à être à l'écoute des services, à tester les documents, les modèles de documents qu'elle va mettre à leur disposition, comprendre où ça coince, pourquoi, quel est leur objectif métier, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est mise autour de ça. Et avec ce que je disais, on repère des pistes d'amélioration. Donc ça lève énormément d'inquiétudes. Ça rassure beaucoup, ça améliore, voire, et surtout ça ne dégrade pas. Améliorer, c'est la cerise sur le gâteau, mais on a besoin de garder le gâteau. Donc voilà, on a sur les conseils d'ailleurs hein, de Stéphanie, notre chef de projet, mis le temps nécessaire sur cette phase d'analyse, d'audit, de test, d'accompagnement, de présence, et ça paye vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui se passe bien. Alors, c'est pas simple, hein, c'est jamais simple quand on arrive, on va voir les gens et on leur dit on va vous bousculer votre travail au quotidien. Hein, on a tous et toutes nos habitudes, on n'aime pas forcément être bousculé, mais ça offre une perspective d'amélioration, de fluidité, d'expliquer aussi pourquoi. Ok, l'élu a dit c'est vers là qu'il faut aller. On peut dire elle est gentille, mais c'est pas elle qui fait le boulot, ce qui est tout à fait vrai. Et donc de prendre le temps de bien regarder le quotidien, le boulot quotidien, et de se donner les moyens que ça va suivre, ça c'est vraiment fondamental. Et là on est vraiment dans cette phase, et pour l'instant, le fait de prendre ce temps-là fait que ça se passe bien.
Ça, c'est un point essentiel parce que finalement vous partez des besoins des personnes. Et l'outil, même s'il a été choisi pour les raisons qu'on a pu évoquer, l'essentiel, c'est de partir des besoins des personnes, d'adapter, de prendre son temps. Donc on note qu'une migration, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On n'installe pas LibreOffice à la place de Microsoft Office. Il y a un temps d'évaluation dont tu parles et qui est assez important.
Et qui va être payant. Parce qu'on investit aussi sur la durée, quand on améliore les processus, quand on fluidifie les choses, etc. On n'est pas juste en train de changer d'outil. On interroge l'institution et on améliore l'institution, donc le service public au final.
Et est-ce que pour l'instant, il y a eu des personnes tests qui ont déjà utilisé LibreOffice ou vous êtes encore dans la phase justement d'accompagnement, d'évaluation des besoins?
On est encore dans la phase d'audit. On va passer à la phase de formation parce que voilà, il y a un moment où on va dire... tel service, ça y est, on vous a vu, tous vos documents sont prêts, on a bien calé, on va vous supprimer votre ancien outil, on va basculer sur le nouveau. Donc on vous forme, on ne va pas non plus vous lâcher sans parachute. Voilà, il faut retrouver ses marques, comment je fais pour imprimer, comment je fais pour faire ceci, cela. Donc ce temps de formation, il est prévu aussi.
D'accord. Alors, on va passer à un sujet un petit peu, enfin même assez différent, mais on va revenir un peu sur Paris. On reviendra sur LibreOffice et notamment sur, dans la partie des difficultés potentielles, et notamment, tu en as déjà un petit peu parlé, l'adhérence aux outils métiers propriétaires, qui est un problème historique dans les outils de bureautique et dans les cadres de migration. Mais là, on va parler un petit peu donc côté Paris. Alors, c'est un sujet totalement différent parce qu'on va parler de l'UTES. Alors, le défi pour Pierre Lévy, ça va être d'expliquer simplement ce qu'est l'UTES. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, voilà, en quelques mots, ce qu'est l'UTES, cette plateforme l'UTES?
D'accord. Alors, au début, donc, je vous ai raconté un petit peu le début de l'UTES. Donc, c'était une plateforme, un CMS qu'on appelle un outil de gestion de contenu. On peut rapprocher un petit peu de voilà des outils tels que Drupal ou WordPress. Et puis au fil des années, c'est devenu un framework et un cadre de développement pour nos applications métiers et pour nos services numériques. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de générer du code. Il y a tout un outillage autour qui permet de réaliser assez rapidement des applications. À titre d'exemple, par exemple, quand Anne Hidalgo est arrivée à la tête de la mairie, elle a voulu mettre en place très rapidement un budget participatif et l'outil a dû être développé en 2 mois et pour ouvrir en septembre. Et voilà, la plateforme nous a permis de développer très rapidement ce service. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet une plateforme qui nous permet de développer un petit peu tout, n'importe quel type d'application web. Et de manière, je dirais, sécurisée et rapide.
Et donc, pour prendre un exemple, Paris.fr, le site Paris.fr, c'est l'UTES ou pas?
Alors, le site Paris.fr, non, c'est pas l'UTES.
C'est pas l'UTES.
En fait, il est...
Raté.
Non, mais il n'y a pas de...
Moi, j'habite pas Paris, hein, j'habite Saint-Denis. Donc...
Le site éditorial, en fait, est réalisé par la direction de la com. C'est pas l'UTES. Par contre, l'ensemble des services numériques qui sont sur Paris.fr, que ce soit les demandes d'actes d'état civil, cartes citoyennes, enfin, tous les services numériques sont en l'UTES.
D'accord, donc voilà, j'étais pas trop loin, c'est pas,
non,
c'est
pas
la partie éditoriale, on va dire, c'est la partie service numérique, donc le plus essentiel pour les habitants et les habitantes de Paris. Et comme tu l'as dit donc, tout à l'heure, l'UTES a commencé en 2000 ou 2001. Ça a été la première, la ville de Paris était la première collectivité à libérer un outil interne sous licence libre.
Tout à fait, c'est le Conseil de Paris en septembre 2002 qui a voté le reversement dans le libre du code de l'UTES.
Et donc on peut noter que depuis, l'UTES poursuit son développement, grandit avec donc chaque nouveau quelque part service numérique de la ville de Paris est basé finalement, si je comprends bien, sur l'UTES, et c'est un redéveloppement, enfin de nouveaux services à chaque fois.
Tout à fait, on a des services, je dirais, assez génériques. On a notamment un service de prise de rendez-vous là, que je conseille vraiment à toutes les collectivités parce qu'il apporte un service très intéressant. Nous, il est utilisé par exemple pour les demandes d'urbanisme, pour les vaccinations, les demandes de rendez-vous avec les directrices de crèche. Enfin, il est vraiment utilisé à plein d'usages différents. Et il est vraiment très facile à réutiliser pour d'autres collectivités. Et on a plein de services aussi beaucoup plus spécifiques à Paris.
Donc quand tu parles de tout à l'heure en introduction, on parlait de mutualisation à un moment, je crois bien, et aussi de réutilisation, c'est un mot très fort dans le domaine du logiciel libre. Ça veut dire que d'autres collectivités utilisent l'UTES pour leurs propres services.
Alors effectivement, l'idée quand le Conseil de Paris a voté cette libération, c'est que ce logiciel puisse servir à un maximum d'autres collectivités. D'ailleurs, Grenoble a été utilisateur de l'UTES de 2002 à 2005. Donc voilà, l'idée c'est de partager pour pouvoir bénéficier de contributions externes, pour que les coûts de développement aussi soient partagés entre toutes les entités. Aujourd'hui, on commence à travailler de manière très très productive avec la ville de Lyon notamment. On travaille sur des projets communs. Ils utilisent des modules qu'on a développés nous, et nous, on est en passe d'utiliser des modules qu'ils ont développés eux. Donc l'idée du partage, il est vraiment de pouvoir récupérer des contributions, que ça soit de l'utilisation, des retours d'utilisation, des tests ou carrément des modules du code. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est relativement difficile de construire cette dynamique de partage et de mutualisation pour un certain nombre de raisons que je pourrais développer.
Alors, on abordera ces problèmes de mutualisation après la pause musicale, parce que c'est effectivement important. Je vais le demander à Laurence Compara. Est-ce qu'au niveau de la ville de Grenoble, alors c'est beaucoup plus récent, parce que je répète, l'équipe municipale est née là que depuis 2014 à Grenoble. Est-ce qu'il y a déjà des projets de libération d'outils internes utilisés par la ville de Grenoble, ou est-ce qu'il y a des projets de libération de tels outils?
Alors nous, on n'en est pas vraiment à développer nos outils. Par contre, on a déjà rendu à la communauté Primtux. Donc Primtux, c'est un outil conçu spécialement pour les écoles, qui est basé sur Linux, donc un système d'exploitation. C'est l'équivalent de Windows, c'est l'équivalent de macOS, mais c'est en libre, et avec une configuration dédiée à l'utilisation des élèves du CP au CM2, qui a été conçu par des informaticiens et des enseignants-enseignantes du primaire. Et donc, on a installé dans nos écoles, donc avec un environnement intégralement libre. Et dans nos écoles, on a aussi des serveurs qui gèrent les accès des élèves et des enseignants au poste, qui filtrent le contenu Internet, puisqu'on a la responsabilité de ne pas exposer un public mineur à tout et n'importe quoi. Et donc, de base, Primtux ne permettait pas de travailler avec nos serveurs. Donc, on a travaillé avec une entreprise locale, ce que je disais tout à l'heure, hein, on fait appel aux compétences du territoire, pour faire le développement qui permet à Primtux de dialoguer avec les serveurs EOL, qui sont aussi une solution libre. Et ce développement-là, on l'a reversé à la communauté, et il est maintenant disponible de base avec Primtux. Et on sait qu'il y a au moins une commune qui l'a déjà déployé pour ses écoles, dont j'ai mangé le nom à ma grande honte.
On va essayer de la retrouver. Donc on va revenir sur le sujet, on va poursuivre le sujet école et puis aussi mutualisation après une petite pause musicale qui va nous servir de respiration. Donc nous allons écouter Nocturnal par Killy Mays. Et on se retrouve juste après.
Grab a two buck chuck, screaming out, we still give a fuck. Change luck, gold struck, blow suck. Shotgun bust, new dimensional thrust. It's intentional trust, unconventional lust. They still following us. We are following none, you been swallowing duds. Giving Halloween guns, each kid sack funds. Sticky icky, we get a little tricky. You ask how many grand and I'm thinking 50. Maybe a hun, but we do this for fun. Ask how many louse and I'm saying none. I ain't playing games with no one. It's not a shame, we all have one. The owls and me, meant to be clean, barren of the sea. While they stare at me, how can it be?
You wanna see us spin, you wanna make us grin, you wanna meet my friends, you know owls are trends, and we rule the night, I hope that's alright, we don't fuss, no fight, we must trust our flight.
Hop up in a spaceship, and you gon' say shit, telepath coordinates, leaving all the racists, fuck all of your faces, stay here with the platelets, now they wanna race, everybody take your places, okay fine, bring them anyway, transform their brains when we press play, and this time unblind, no child left behind, no memories will rewind, through this warp, place and time may seem morbid, but it's prime, you are an orchid out of her mind, Mother Earth ain't been feeling fine, oi, just trust till we install your toy, we must only recall our joy, no more phony homogenized ploy, no more death to little girls and boy, everyone is equal, no chosen, hoi polloi,
you wanna see us spin, you wanna make us grin, you wanna meet my friends, you know owls are trends, and we rule the night, I hope that's alright, we don't cross no fight, we must trust our flight,
cause commune,
we must trust our flight, you wanna see us spin, we must trust our flight, we must trust our flight, you wanna see us spin, you wanna see us spin, you wanna see us spin. You wanna see us spin? You wanna see us? Okay, fine. You wanna make us grin?
Nous venons d'écouter Nocturnal par Killimez, donc c'est en licence libre, les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Et puis même en Ile-de-France, vous pouvez écouter sur causecommune.fm en fait. Alors nous allons poursuivre la discussion sur le thème des collectivités et le logiciel libre, donc toujours avec nos invités du jour, Laurence Compara, adjointe données publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble, et Pierre Lévy de la direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, notamment en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme Lutès. Juste avant la pause musicale, Laurence Compara nous parlait un petit peu de PrimeTux, qui est une distribution pour les écoles basée sur un système libre GNU Linux. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas expliquer voilà, ce qu'il est possible de faire dans les écoles avec cette distribution donc, qui s'appelle PrimeTux?
Alors, on a choisi cette solution-là. Au début, on s'était dit, on va mettre un environnement Linux de base, avec un LibreOffice, un accès Internet, etc. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un petit peu pauvre quand même pour les écoles. Et coup de bol, il y a une magnifique environnement, j'allais dire clé en main, conçu par et pour les enseignants et enseignantes du primaire, qui permet de proposer un environnement adapté aux élèves, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à l'ordinateur en disant « je suis en CP-CE1, je suis en CE2, je suis en CM1 ». Et vous allez avoir une interface qui va être adaptée au fait que vous ne savez peut-être pas encore très bien lire et écrire parce que vous êtes en CP. Donc, il va y avoir des gros boutons, il va y avoir des icônes un peu plus rigolotes. Le programme de maths, évidemment, que vous pourrez faire suivant que vous connectez en tant que CP ou CM2 ne sera pas le même. Et ça pour toutes les matières, avec énormément d'outils dans les différentes matières adaptés au programme. Donc voilà, un environnement qui facilite le travail des enseignantes et enseignants. Alors la difficulté que nous, on a en tant que collectivité par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas l'employeur des enseignantes et enseignants. Donc tout ce travail d'accompagnement dont je parlais, que nous pouvons faire en tant qu'employeur auprès de nos agents et de nos agentes quand on passe à LibreOffice à la ville de Grenoble et au CCAS, ça n'est pas à nous de le faire. En éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui a la charge de la formation des enseignantes et des enseignants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la formation au numérique est quand même un peu le parent pauvre. Et donc, malheureusement, nous, ce qu'on constate, mais quel que soit l'environnement qui est mis à disposition, hein, c'est que souvent, les enseignantes et les enseignants sont un peu tout seuls face au numérique à l'école. Nous, on leur a fourni des modes d'emploi. On leur a expliqué, voilà, LibreOffice, voilà comment vous en servir. Pour vous connecter à Internet dans cet environnement, voilà ce que vous faites. Voilà la liste des applications pédagogiques qui sont fournies. S'il y en a des super intéressantes que vous trouvez, on peut les rajouter facilement, il n'y a aucun souci. Mais par contre, nous ne sommes ni compétents ni légitimes à leur dire, ben voilà, par rapport au programme de Sciences Nat, voilà un super scénario pédagogique à dérouler. Donc voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, sur ces questions-là. Où nous, on met des moyens à disposition, mais c'est pas nous qui sommes censés former les gens qui vont s'en servir au final.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que récemment, dans le débat pour une école de la confiance, donc notamment au Sénat, alors très récemment, il y a eu un amendement, si je me souviens bien, c'est de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, pour renforcer la formation des enseignants et des enseignantes dans les nouvelles écoles dont je n'ai pas retenu le nom, parce que ça va encore changer de nom. Je vous invite à aller sur le site de l'April, donc april.org, parce qu'il y a la vidéo et on a fait la transcription, parce qu'au cours de cette discussion sur la formation de ces personnes, il y a eu la question du logiciel libre, de la priorité au logiciel libre. Donc, mais évidemment, dans le domaine des écoles, comme les collectivités, comme tu l'as dit, vous n'êtes pas en charge effectivement de la formation des personnels, vous dépendez un peu de ce que fait l'éducation nationale. Et malheureusement, depuis des années, les gouvernements passent, mais les accords de partenariat avec Microsoft et autres, Google, Cisco et compagnie, perdure, alors qu'évidemment, avec énormément de volonté, comme tu dis, il y a des outils logiciels libres qui existent aujourd'hui, qui sont largement utilisables par des enfants, que ce soit en primaire ou au collège, et ensuite après.
Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu face à un nœud. On a le nœud des logiciels propriétaires et le fait qu'on... contrairement aux consignes de l'État, hein, d'ailleurs, qui invitent à favoriser l'utilisation des logiciels libres, on enferme l'école. Et encore une fois, l'école, c'est un lieu de formation, c'est un lieu où on prépare quand même l'avenir de la nation, pour ne pas dire plus largement. C'est encore extrêmement verrouillé. Et puis, il y a effectivement des difficultés de formation. Nous, on a essayé de négocier avec l'inspection de l'éducation nationale en disant, écoutez, voilà, nous, on est en train de bouleverser un peu les conditions de travail de vos employés. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Il faudrait que vous trouviez, dégager du temps pour qu'ils soient formés. Et l'inspectrice nous a dit que c'était compliqué puisque les enseignantes et les enseignants avaient droit à 18 heures de formation annuelle, dont 9 heures de maths et 9 heures de français obligatoires. Le numérique, quel que soit l'environnement, on voit bien que c'est le parent pauvre.
Exactement. Comme je le disais, évidemment, ça va peut-être pas forcément changer avec le gouvernement actuel et les projets. Enfin, en tout cas, j'invite les gens quand même à regarder un petit peu ce qui se passe dans le projet de loi de l'école de la confiance et les débats, notamment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, parce qu'on voit quand même des politiques qui sont, certains politiques de plus en plus investis pour essayer de pousser les logiciels libres et puis une vraie formation des élèves et aussi des équipes enseignantes, parce que ça va évidemment ensemble. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera relativement bientôt un sujet sur l'éducation et le logiciel libre et l'informatique, peut-être avant la pause estivale ou juste à la rentrée, nous verrons. Je vais revenir sur Paris et l'UTES. J'ai l'impression que l'UTES, c'est quand même un succès story quelque part, vu la durée. Tout à l'heure, Pierre Lévy, donc, de la direction informatique de la ville de Paris, parlait de la réutilisation par d'autres collectivités, qui, je suppose, sont accompagnées, comme à Grenoble, par des prestataires locaux pour les aider. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, Pierre Lévy, est-ce que vous avez une idée au niveau de la mairie, de savoir combien d'autres collectivités réutilisent l'UTES pour leurs propres besoins. Est-ce que ce sont que des collectivités françaises ou est-ce qu'il y a des collectivités étrangères, par exemple ?
Alors, une réponse très simple, c'est, je dirais, trop peu pour l'instant. Vu les potentialités de ce que peut apporter la plateforme et vu le fait que toutes les collectivités ont quasiment les mêmes besoins, aujourd'hui, je dirais le libre, mais il n'y a pas que l'UTES, hein, les autres plateformes comme OpenMairie ou Public, etc., ne sont pas assez diffusées, pas assez utilisées pour l'instant par rapport aux potentialités qu'elles offrent. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, parce que je dirais que j'ai un petit peu une vision de plus d'une quinzaine d'années un petit peu sur l'évolution des plateformes open source en France, c'est le fait que aujourd'hui il y a un regain pour l'open source, hein, on peut le voir depuis.
Alors, pour l'open source ou pour le logiciel libre?
Pour les deux, voilà.
Pour les deux, d'accord.
Pour les deux et notamment pour la fonction de développeur, je crois que c'est une excellente chose, hein. C'est que on s'est aperçu, parce qu'il y a une dizaine d'années, tous les étudiants qu'on recevait, etc., on leur expliquait à l'école que le développement n'avait pas d'avenir, ça serait fait par des générateurs ou offshore en Inde ou etc. Donc s'il s'agissait pas d'investir dans cette direction. Et il a fallu que Xavier Niel, notamment avec l'école 42, fasse prendre conscience à tout le monde que les développeurs étaient fondamentaux dans le développement de l'économie numérique et qu'il fallait plus de développeurs. Et donc c'est un phénomène
et de plus de développeuses aussi.
Et c'est de développeuses, tout à fait. D'ailleurs, j'ai dans mon équipe des développeuses.
C'est pour ça que je le dis en plus.
Et voilà.
Ah, super.
Et donc voilà, une personne qui travaille sur l'UTES depuis très longtemps avec moi, Isabelle. Donc il est important que cette fonction de développeur est redevenue à la mode. On le sent bien depuis quelques années. Et donc ça redonnait forcément un goût à l'open source, puisque tous les développeurs aujourd'hui travaillent avec des briques open source quasiment. Et par contre, on est dans une nouvelle phase où faire du logiciel libre, en fait, c'est publier son code sur une plateforme telle que GitHub. Sauf que c'est loin d'être suffisant. Et ce que j'essaie, le message que j'essaie de faire passer un petit peu dans le milieu des collectivités, c'est que c'est très bien de faire des logiciels, de les reverser, mais il est vraiment important pour que le logiciel ait une chance de survivre, et je suis bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup d'autres critères qui sont très importants, comme la gestion de la sécurité, comme les tests, la documentation, la maintenabilité, l'exploitabilité. Et donc, si tout le monde reverse son code de manière un petit peu anarchique, ça ne sert pas forcément le système, parce que du coup on n'arrive plus à choisir, on peut tomber sur des logiciels qui sont pas suffisamment de bonne qualité et donc aller dans des déceptions. Et aujourd'hui mon message, il serait plutôt d'essayer de contribuer aux plateformes existantes. Alors, en fonction de ses affinités en termes technologiques, hein, si on est plutôt Python, PHP ou JavaScript ou Java. Hein.
Ça, ce sont des langages de programmation.
Ouais, c'est des langages de programmation. Bon, Lutès, par exemple, utilise le langage Java. Donc, en fonction de ces affinités-là, des compétences internes, etc., je pense que on servirait mieux la réutilisation, la mutualisation si les gens participaient, contribuaient, s'associaient sur des plateformes comme ça. Et vraiment, là, je tiens à saluer Lyon ou Marseille ou Nice aussi, avec qui on travaille un petit peu en ce moment, de rentrer dans des logiques comme ça. Et on espère que ça va permettre de consolider des communs logiciels qui puissent être vraiment à la disposition de tous et réutilisés par toutes les collectivités.
Et en rajoutant un peu d'éthique là-dedans, on arrive au logiciel libre. On passe de l'open source au logiciel libre.
Oui, je suis désolé, Frédéric.
On a eu la discussion.
Remplacer dans mon discours open source par logiciel libre.
Je précise qu'on a eu la discussion avant la présidentielle. Je taquine un peu Pierre. Alors, je surveille l'heure parce que le temps passe, en fait, sur ce sujet quand même passionnant. Je voulais revenir sur une difficulté qui a été évoquée tout à l'heure par Laurence Compara quand elle parlait de LibreOffice, et qui est une difficulté qu'on connaît, hein, depuis très longtemps, qui est l'adhérence de la suite bureautique, Microsoft Office, hein, pour ne pas la nommer, aux outils métiers propriétaires. Est-ce que c'est le principal défi, cette adhérence, c'est-à-dire le fait que cette dépendance, hein, on va dire plutôt le terme dépendance, la principale difficulté quand on fait un projet de migration vers LibreOffice, au-delà de l'humain dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que d'un point de vue technique, c'est la principale difficulté?
C'est la deuxième difficulté, effectivement. Il y a l'aspect changement, et puis il y a le côté, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que les logiciels métiers que j'ai, est-ce que mon logiciel de comptabilité, mon logiciel ressources humaines, mon logiciel de gestion des cantines, de gestion de mes piscines, etc., etc., est-ce que ça va marcher si j'ai besoin de gérer les documents de type courrier, tableur, etc. Est-ce que ça va marcher si je n'utilise plus la suite que tu n'as pas nommée? Eh bien, il y a des cas où on est coincé. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quand même des moments où des éditeurs logiciels nous fournissent des outils qui ne fonctionnent que dans une configuration donnée. Ça ne va marcher que avec Windows, que avec Microsoft Office. Et ça ramène à cette question de la souveraineté que je soulevais tout à l'heure. Moi, en tant que collectivité publique qui dépense de l'argent public, ça veut dire qu'il y a des moments où, en fait, je n'ai pas le choix de ce que je vais mettre en place dans ma collectivité pour rendre le service public. Ça pose une question de fond quand même. Il y a une absence de liberté, alors qu'il y a une offre par ailleurs, potentiellement, et du coup, parce que je ne vais pas non plus empêcher mes agents et mes agentes de travailler, je ne vais pas mettre en danger le fait de rendre mes missions de service public ou de remplir mes obligations réglementaires, donc ça peut être un vrai frein. Et là, on a un souci où il y a les éditeurs cèdent à la facilité, en fait. 99, 100% de leurs clients sont dans la configuration. Tout le monde considère comme étant la seule disponible. À force de l'avoir, on baigne tellement dedans, on n'imagine pas que ça puisse être autre chose. Alors qu'en fait, si, ça pourrait être autre chose. Alors oui, ça a un coût peut-être de se dire, il faut que mon outil il soit disponible, il puisse marcher à la fois sous Windows, à la fois sous Mac, à la fois sous Linux, avec tel outil, etc. Mais ça veut dire aussi, dans la philosophie de la façon dont je le développe, il faut peut-être que je pense à développer des outils qui sont indépendants du système qui va être utilisé. Aujourd'hui, avec les outils web dont nous parlait Pierre, on fait énormément de choses. Quand on fait du web, on n'est pas dépendant du système. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'appeler des documents qui sont extérieurs? Est-ce que c'est pas plutôt mon outil qui va me générer un format PDF, par exemple? Ensuite, je vais envoyer par mail à mes correspondants. Il y a des logiques dans la façon de concevoir les outils qui sont en elles-mêmes bloquantes derrière. Et donc, au-delà du fait que c'est exaspérant sur le principe, c'est très important quand on se lance dans cette démarche, et nous, c'est une des deux choses qu'on a faites au préalable, hein, c'est cet audit-là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits où on va être coincé? Parce que se dire, si je veux changer ma suite bureautique, il faut que je change mon logiciel de comptabilité, ça change les données du problème.
Alors, ça nous fait penser, pour pas faire croire que c'est moi qui ai pensé, je précise que c'est mon collègue en régie qui me le signale, cet enfermement, je dirais que Laurence Comparant devrait t'envoyer parler aux gens du ministère des Armées qui vivent un enfermement depuis maintenant 2008 avec l'open bar Microsoft Défense, dont le renouvellement était calculé sur 4 ans, qui est une durée qui est sans doute pas suffisante pour permettre justement de se libérer de cet enfermement-là. Donc il n'y a pas que dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des entreprises, il n'y a pas que dans les collectivités, il y a aussi malheureusement des structures qui ont pourtant des moyens, le ministère de la Défense, donc on peut espérer que bientôt ils s'en libéreront, ils arriveront évidemment avec des solutions logicielles.
Il y était arrivé.
Exactement, surtout que voilà, il y a ce qui est intéressant dans ce qu'on présente aujourd'hui avec Paris et Grenoble, c'est des exemples où ça fonctionne, et effectivement, comme tu le dis, la gendarmerie, mais pareil comme Grenoble, la gendarmerie a pris le temps, a fait un plan de migration sur de longues années avec un accompagnement, une formation. D'ailleurs, ça me fait penser une de mes dernières questions, mais à tous les deux, parce que là, on a parlé donc, on va dire, de difficultés ou de points de blocage, et évidemment, la dépendance aux outils métiers propriétaires est un point de dépendance très fort. Mais alors, quel levier, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais quel levier vous conseilleriez à des collectivités qui voudraient donc mettre en œuvre des projets logiciels libres pour que ça se passe bien? Alors, on va commencer déjà par Pierre.
Alors, effectivement, il faut sensibiliser, je dirais, un petit peu tous les acteurs, que ce soit les élus, les opérationnels, les agents, etc. Et la sensibilité, leur faire comprendre un petit peu les enjeux civiques qu'il y a derrière le logiciel libre, c'est déjà une très grosse étape.
Laurence ?
Tout à fait. On l'a déjà dit, hein, mais il y a vraiment l'idée, c'est des projets de grande ampleur. C'est pas anodin. C'est du changement, ça prend du temps, ça demande des moyens, ça ne va pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait, mais si on veut l'installer de manière solide, il faut se donner le temps et il faut, ce que vient de dire Pierre, expliquer pourquoi on le fait. Il y a des valeurs derrière, il y a des envies, et puis mettre en avant aussi les opportunités que ça va susciter. Comme je vais voir tous mes services, parce que tout le monde va être concerné, j'en profite pour creuser d'autres choses. J'en profite pour leur dire, et au quotidien, qu'est-ce qui vous enquiquine? Ah ben tiens, on va en profiter pour travailler dessus. Vraiment avoir une perspective globale, s'en saisir aussi comme prétexte pour être dans l'amélioration des conditions de travail, du service rendu, et donc vraiment avoir une perspective de moyen-long terme. Et une perspective qui ne soit pas une perspective technique. Ne pas minimiser la dimension technique. Il y a un travail technique à fournir, les équipes informatiques sont forcément mobilisées, mais ça n'est pas que ça. Si on se dit que c'est un projet d'institution et de transformation de l'institution au service des valeurs et des valeurs du service public, on pose déjà des choses qui sont solides et on prend le temps de le faire tranquillement.
Ça me paraît excellent. Alors, ce n'est pas encore la conclusion, parce que je vois que Pierre me regarde. En tout cas, voilà, ça me paraît. Tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là ?
Tout à fait d'accord. Et je rajouterais même pour la partie développeur, c'est que moi, je le vois avec mon équipe, les gens sont vraiment très investis dans le fait de développer du logiciel libre. Ça donne un plus sur la qualité, sur la motivation, sur l'investissement qui est vraiment indéniable.
Alors, je précise, parce que tu parles de développeurs et donc aussi de développeuses, que j'encourage les personnes qui nous écoutent à réécouter l'émission du 14 mai 2019, qui était consacrée au métier du développement logiciel libre, donc avec Emmanuel Ravière et Katia Aresti, donc développeurs et développeuses logiciel libre, qui ont expliqué pourquoi c'est très bien de faire du développement et pas simplement uniquement dans les premières années de sa carrière d'informaticien ou d'informaticienne, parce que Katia Aresti et Emmanuel Ravière sont développeurs et développeuses depuis de longues années. Donc c'est l'émission du 14 mai, disponible en podcast sur le site de l'April, april.org. En conclusion, j'aimerais vous demander un petit peu, est-ce que vous avez une actualité autour du logiciel libre ou des projets? On va commencer par Pierre, comme ça on laissera la parole à Laurence pour conclure.
Alors en termes d'actualité, on va organiser un forum début juin où on va réunir des grandes personnalités de l'open source américaine notamment, comme le président de la Fondation Linux, Fondation Eclipse, voilà des gens de Code for America, pour essayer de réfléchir avec eux sur comment comment essayer de faire prendre un petit peu les plateformes open source dans les villes, et notamment les villes américaines, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille avec Baltimore et Bloomberg sur des expérimentations et sur la possibilité donc de redéployer des plateformes, la plateforme Lutèce par exemple, aux États-Unis. Donc ça, c'est début juin. Et puis on est sur en shortlist pour le prix de Share and Reuse de la Commission européenne.
Donc il y a partage et réutiliser.
Partage et réutilisation. Donc sont des prix. Il y a eu 80 candidats et aujourd'hui il y a 16 nominés en shortlist et on est deux produits français en shortlist. C'est OpenFisca, qui est un moteur de calcul d'aide sociale qui est fait par le ministère des Finances, et l'UTES. Et donc les résultats auront lieu le 12 juin, je crois.
Bah écoute Pierre, on croise les doigts et on annoncera ça dans l'émission de l'April.
Nous aussi.
Laurent, ces actualités côté Grenoble ?
Actualité, pas spécialement, puisqu'on est plus dans les phases où on monte en puissance. L'ensemble des écoles de Grenoble seront toutes passées donc intégralement en logiciel libre à la rentrée, après plusieurs années de travail. On a bien conscience qu'on a un peu bousculé tout le monde, en particulier les équipes pédagogiques. Et une des choses qui nous reste à faire, et avec mon collègue Fabien Malbet, adjoint aux écoles, on porte vraiment ce projet-là tous les deux, on souhaite voir, en lien avec l'éducation nationale, pour se rapprocher des éditeurs des manuels scolaires numériques. Parce qu'un des points de tension, cette dépendance au logiciel propriétaire, on l'a aussi sur les manuels scolaires. Ce que nous font remonter les équipes pédagogiques, c'est que le manuel numérique qu'ils ont acheté, il tourne plus sous Linux, parce que ça n'a pas été conçu pour. Et donc là, on se dit qu'on a peut-être aussi un travail politique, nous, à faire, pour nous rapprocher des éditeurs, pour qu'ils fournissent leurs super outils utilisables par tout le monde.
Cette annonce de migration est très bien et je ne peux que appuyer ce que tu viens de dire. Avant qu'on se dise au revoir, je voulais quand même repréciser une chose, parce que c'est important. Tout à l'heure, Pierre Lévy a indiqué qu'Emmanuel Grégoire, donc, qui est premier adjoint à la mairie de Paris, avait été présent aux 20 ans de l'April, là, donc à la soirée à Paris, parce qu'évidemment, on l'a invité. Je tiens à préciser que Laurence Compara est venue récemment à l'AG de notre association, l'April, qui a lieu à Saint-Denis, donc en mars 2019. Donc au-delà de vos investissements dans les collectivités, Paris et Grenoble sont aussi investis donc, au sein notamment de l'April et d'autres structures, et je vous en remercie. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée Laurence, et puis à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt Pierre. Alors nous allons vous proposer un petit quiz avant la pause musicale. Donc vous aurez le temps de la pause pour proposer des réponses donc soit sur le salon web de la radio, donc je rappelle causecommune.fm, ou via les réseaux sociaux, donc le compte april.org sur Twitter ou poète.april.org sur Mastodon. Donc la première question, que signifie le sigle THSF ? Je répète, que signifie le sigle THSF ? Et deuxième question, dans l'émission de la semaine dernière, donc mardi 21 mai 2019, un des intervenants travaille pour la société 24e. Mais d'où vient ce nom 24e ? Vous avez le temps de la pause musicale pour chercher, soit dans la transcription sur le site de l'April, april.org, ou dans vos souvenirs. Et nous allons donc faire une pause musicale, nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop.
Ouais, culture.
Cause commune.
Religion culturelle de la subvention universelle, gestion séquentielle du bon vouloir industriel, adaptation matérielle de l'inertie conventionnelle, marathon personnel de la dépense exponentielle. Depuis qu'on a donné les clés du coffre aux abrutis qui dénaturent l'offre, depuis qu'on a servi les créatifs afin qu'ils deviennent plus attractifs, depuis que l'art s'apprend à l'école, la revendication se fait plus molle, l'efficacité s'envole vers des budgets politiques ras-le-bol.
Danse
sur les résidences, danse sur les résidences, danse sur les résidences, danse sur les résidences. L'art contemporain a tant d'argent en main que le crevard attend enfin d'avoir sa place enfin. L'art content pour rien a tant d'argent en main que le crevard comme moi attend enfin d'avoir sa place enfin.
Ouais.
Sur les résidences, danse sur les résidences, danse sur les résidences. Sur les
l'incidence de l'esprit critique. Tout le monde est dans la danse, le théâtre ou la musique. Et depuis que l'apparence est tout phonétique, la culture pour tous a un effet merdique. Depuis la résidence de l'esprit critique, tout le monde est dans la danse, le théâtre ou la musique. Et depuis que l'apparence est tout phonétique, la culture pour tous a un effet merdique. L'art content pour rien, a tant d'argent en main que le crevard attend enfin d'avoir sa place enfin. L'art content pour rien, a tant d'argent en main que le crevard que moi attend enfin d'avoir sa place enfin. Ouais. Sur les résidences, danse. Sur les résidences, danse. Sur les résidences, danse. Sur les résidences. Religion, tu rêves de la subvention universelle. Gestion, c'est quand j'ai du bon vouloir industriel. Adaptation matérielle de l'inertie conventionnelle. Marathon personnel de la défense exponentielle. Religion, tu rêves de la subvention universelle. Gestion, c'est quand j'ai du bon vouloir industriel. Adaptation matérielle de l'inertie conventionnelle. Marathon personnel de la défense exponentielle. Danse sur les résidences. Danse sur les résidences.
Nous venons d'écouter Sucre Pop sur la Terre. Et c'est évidemment disponible en licence libre. Les références sont sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant la pause musicale, j'avais posé deux questions. Alors, la première question, j'y répondrai tout à l'heure dans les annonces. Mais pour la deuxième question qui était sur l'entreprise dont le nom s'appelle 24e lors de la dernière émission, l'explication est la suivante. Cette personne donc, faisait partie d'une équipe de développeurs, là, vraiment développeurs, quatre garçons, qui étaient au quatrième étage, et donc on les appelait les gars du quatrième. Et il se trouve que ces personnes travaillaient essentiellement pour des viticulteurs, donc des projets vins. Du coup, ça a fait 24e. Et il se trouve que c'est aussi l'inverse de 42. Évidemment, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est 42, je les invite à lire le guide du voyageur galactique, et qu'elles comprendront que 42 est un élément central de ce livre. Nous allons passer au sujet suivant, avec la chronique de Vincent Calam, bénévole à l'April, et qui m'a dit une phrase qu'on entend très souvent. Dit, tu ne connaîtrais pas un logiciel libre. Phrase que nous entendons effectivement tous très souvent et que tu as entendu encore récemment, et donc ça t'a donné l'idée de cette chronique du jour, Vincent.
Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, c'est sûr que c'est une question qui est très agréable à entendre. Alors, je dois juste un peu expliquer, moi, dans quel contexte je l'ai entendu. Donc, je travaille principalement pour la FPH, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le Progrès de l'Homme, qui possède un bâtiment au 38 rue Saint-Sabin. Alors, c'est une adresse qui est connue des libristes, puisque nous y accueillons tous les jeudis soirs, les soirées de contribution au libre de Parinux, et puis également des événements de l'April. Et donc, ce bâtiment héberge une dizaine de structures. Et chacune de ces structures est un peu libre de sa politique informatique. Alors, évidemment, pour la structure pour laquelle je travaille, la FPH, là, on a basculé depuis belle lurette vers le logiciel libre, mais sinon, nous n'imposons rien aux personnes hébergées.
Donc, pas de prosélytisme en particulier en faveur du logiciel libre?
Alors, très peu, parce que c'est vrai que je me suis, par le passé, un peu cassé les dents quand j'avais une démarche trop volontariste. Je préfère en fait prêcher par l'exemple. Bon, ben, je ne m'empêche pas de rappeler toujours que Apple et Microsoft sont les deux premières capitalisations mondiales, sachant que souvent ces structures travaillent dans ces questions d'alternatives aux multinationales. Donc c'est toujours bien de rappeler ces faits-là quand on utilise ce type d'ordinateur. Également, quand quelqu'un vient avec un Mac qui n'arrive pas à le brancher au vidéoprojecteur, ben j'en fais des gorges chaudes. Mais sinon, moi, ce que je constate, c'est que l'action de sensibilisation a été faite. Les structures n'ignorent pas, personne n'ignore que le logiciel libre existe. Maintenant, moi, je considère que c'est un peu aux gens de faire la démarche. Et moi, mon bureau est ouvert si on a des questions à me poser.
Alors, Ton bureau est ouvert, d'où la question « Dis Vincent, tu ne connaîtrais pas un logiciel libre ?» Alors, de quel logiciel libre s'agit-il ?
Oui, alors c'est premier point intéressant, c'est qu'on m'a posé récemment 3 fois cette question, et à chaque fois, c'était sur le même sujet. C'était sur la question du partage de fichiers, et notamment les alternatives aux solutions propriétaires que je vais citer, hein, Google Drive, Dropbox, et ainsi de suite, avec à chaque fois, avec des modifications, activation d'ordre technique, puisque les problèmes de capacité, parce que c'est évidemment des solutions gratuites au départ, mais quand on commence à beaucoup les utiliser, on atteint une saturation. Mais aussi, et ce qui est encourageant, des questions éthiques sur la question du contrôle des données. Moi, je vois vraiment à mon petit niveau qu'il y a eu tout le travail de sensibilisation que font de nombreux acteurs du libre porte leurs fruits sur ces questions-là.
D'accord, on en parlera peut-être à la fin de la chronique. Et donc, quelle était ta réponse ?
Alors, pour moi, c'est le deuxième point intéressant, c'est que je trouve que la réponse n'est pas simple. Alors, en fait, il y a 10 ans, quand on posait cette question-là, la réponse était assez simple, parce que on allait notamment sur Framasoft, qui était là, à l'époque principalement un catalogue de logiciels libres. On regardait quel était le besoin que la personne voulait, à quel la personne voulait répondre, et on lui disait de télécharger, et voilà, ça s'installait plus ou moins facilement, et le tour était joué. Le problème maintenant, c'est que c'est pas seulement une alternative à un logiciel, c'est carrément une alternative à un service. Alors, je vous explique la différence. Dans notre cas de Google Drive et Dropbox, le logiciel qui permet de faire une libre, qui permet d'avoir une alternative existe, hein, c'est Nextcloud. Simplement, il ne s'agit pas seulement de l'installer sur son ordinateur, de le télécharger en un clic et c'est terminé. Pour utiliser Nextcloud, il faut avoir son propre serveur, l'installer sur son propre serveur. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour des gens qui n'ont pas cette compétence technique que juste de l'installer sur son bureau.
Et l'installer sur son ordinateur, est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'il existe d'autres solutions ?
Alors, donc là, oui, il existe heureusement d'autres solutions. Et là, moi, c'est toute l'importance du mouvement des chatons qui a été beaucoup évoqué à cette antenne et qui va sans aucun doute continuer à être évoqué souvent, puisque beaucoup de structures n'ont pas ces moyens de mettre en place de tels services. Et là, il est important qu'il y ait des prestataires, des lieux où ils peuvent disposer de ce type de service. Et d'ailleurs, dans les 3 cas où on m'a posé cette question, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté Nextcloud. Et ensuite, j'ai accompagné les personnes sur le site des chatons pour essayer d'identifier des prestataires qui pouvaient répondre à leurs besoins, de voir en termes de capacité ce qu'ils proposaient et ainsi de suite. Moi, chose intéressante, c'est qu'il y a 10 ans, en fait, on avait tout un message qu'on passait auprès des gens, c'est « libre ne veut pas dire gratuit ». Parce qu'au fond, le principal argument, il y a une dizaine d'années, c'était justement ce côté « pas de licence à payer, on télécharge ». Moi, ça, c'était vrai, donc c'est toujours vrai dans le cas des logiciels qu'on installe sur son ordinateur. Quand on est dans la question des services, il y a des services en ligne qui sont partagés par plusieurs utilisateurs. Le problème maintenant, c'est que la gratuité, elle est du côté des services privateurs. C'est gratuité de Dropbox, gratuité de Google Drive, gratuité de Facebook, et ainsi de suite. Donc on est face à ce problème-là, en fait. On n'a plus cet argument gratuité. Et au contraire, maintenant, je suis obligé de dire, passer au logiciel libre, ça va vous demander un budget. C'est-à-dire que c'était gratuit avant, ça va vous demander un budget. Mais je pense que c'est aussi positif, puisque la confusion liberté-gratuité effectivement posait problème. Là, c'est plutôt de dire, tout comme la démocratie a un coût, hein, on sait que c'est, la liberté aussi a un coût, et je crois que c'est important de le rappeler et d'avoir cette démarche, de dire que ça vaut la peine de faire l'investissement, mais qu'il y aura des conséquences budgétaires indéniables. Ça, je ne cache pas à chaque fois à mes interlocuteurs cette dimension des choses.
Maintenant, il ne faut évidemment pas cacher la réalité des choses. En tout cas, je te remercie. Tu as parlé des chatons, donc on va rappeler que c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaire. Donc le site c'est chaton.org, chaton avec un S, sur lequel vous allez trouver un certain nombre de structures qui proposent des services, dont certains proposent des services de partage de fichiers. Je vais en faire profiter aussi pour faire un peu d'auto-pub pour le chaton de l'April qui s'appelle Chapril, donc chapril.org, parce que j'ai vu hier que sur les listes internes que le prochain service qui serait mis en ligne serait un service de partage de fichiers. Mais pas basé sans doute avec Nextcloud qui fait beaucoup d'autres choses que ça, sans doute avec un outil qui fait que ça et qui le fait bien. Donc voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sur le web chat de la radio, donc sur le salon web, on me signale qu'il existe d'autres solutions. Alors, individuel ou en tout cas pour les gens qui veulent installer, c'est la brique internet et YouNoHost. Donc le peu de temps qui nous reste, j'encourage les gens à regarder sur internet des informations sur la brique internet et YouNoHost, mais on mettra des références aussi sur le site de l'April. Écoute, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Vincent?
Non, effectivement, moi je n'ai cité qu'un seul logiciel parce que parfois le fait qu'il y ait une très grande diversité de choix est aussi une source de confusion pour les gens. Quand on dit « tu connaîtrais pas un logiciel libre ?» En fait, j'en connais 10. On a un peu un effet aussi de trop d'abondance qui perturbe également. Les gens ne connaissent qu'un seul. Donc, c'est vrai que j'avais cité Nextcloud parce que il me semblait la plus... En fait, c'est celle que j'utilise par ailleurs. Donc, c'est pour ça que je l'ai cité. Mais c'est sûr que l'avantage du logiciel libre, c'est aussi cette diversité de choix.
Exactement. Alors, j'utilise aussi Nextcloud et très récemment... Une partie de ma famille est partie loin et pour échanger les photos, on a utilisé l'outil de partage de Nextcloud qui fonctionne très bien à la fois sur ordinateur, on va dire, de bureau et aussi sur téléphone mobile, ce qui est aujourd'hui essentiel pour les gens. Écoute, merci Vincent, puis on se retrouve le mois prochain.
Bien sûr.
Alors, nous approchons de la fin de l'émission, même très rapidement, donc je vais terminer par quelques annonces, mais alors moins que prévu, parce que finalement, d'abord, je vais corriger le nom de la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. J'avais un doute quand je vous ai parlé de Sucre Pop, pas du tout, c'était E-Residence par Dag Z. Donc voilà, je corrige parce que c'est pas le nom que j'avais en tête. Donc voilà, la correction est faite. Tout à l'heure, dans le cadre du petit quiz, je vous demandais ce que signifiait le sigle THSF. Eh bien, je félicite ma cousine. Alors, on va encore répéter que ce n'était pas ma cousine, hein, mais c'est quelqu'un dont les pseudos est ma cousine sur le salon web de la radio, qui a trouvé ce qu'est THSF. Alors, évidemment, c'est un lien avec les annonces du jour. Donc, Toulouse Hacker Space Factory. Donc, c'est un événement qui a lieu donc à Toulouse, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, donc depuis 2010. Donc, la THSF est un rendez-vous autour des différentes facettes de la culture hacker, logiciel et matériel libre. Do it yourself, réappropriation et détournement des technologies, art et sciences, défense et droits des libertés sur Internet. Donc voilà, beaucoup d'événements, beaucoup de sujets donc, qui vont être traités en fin de semaine à Toulouse. Si vous habitez Paris, vous êtes les bienvenus à l'apéro de l'April le vendredi soir 31 mai au local de l'April. Donc les références sont sur le site de l'April. Donc notre émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. La prochaine émission aura lieu mardi 4 juin. Notre sujet principal sera consacré à nos amis de Framasoft. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 4 juin. Et d'ici là, portez-vous bien.